Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat confiné depuis chez nous, enregistré la veille de sa diffusion, mais nous sommes tout de même tous ensemble grâce à la modernité technique et aux techniciens de Radio France qui nous font converger vers notre bonne maison de Radio France. En ce jour de la fête du travail, nous allons nous demander si la crise du Covid-19 va nous faire basculer dans un autre monde du travail. Cette semaine, nous avons tous appris en effet que le nombre de chômeurs avait augmenté de 7,1% en mars sous le coup de la crise et de l'arrêt massif de nombreux secteurs d'activité. Parallèlement, un discours optimiste s'est développé prônant le changement des modes de travail à la suite de l'expérimentation du télétravail pendant le confinement et pourtant, nous le savons, ce télétravail ne concerne pas l'ensemble du corps social. N'est-ce là qu'une projection imaginaire? La crise a-t-elle accéléré des processus déjà en cours dans le domaine du travail? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Sophie Bernard, elle est professeure de sociologie à Paris Dauphine, chercheuse à l'IRISO et autrice du Nouvel Esprit du Salariat au PUF, ça vient tout juste de sortir. Antonio Casilli est avec nous également, il est professeur à Télécom Paris, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur l'an dernier au seuil de En attendant les robots, enquête sur le travail du clic. Et enfin, Carole Grandjean est également avec nous, elle est députée La République En Marche de Meurthe-et-Moselle et membre de la Commission des Affaires Sociales et elle prépare ces temps-ci une proposition de loi sur la santé au travail. Je vais commencer avec vous, Madame la députée, Carole Grandjean, vous êtes députée de Meurthe-et-Moselle et vous travaillez à la Commission des Affaires Sociales. Alors j'imagine que dans le contexte un peu particulier qui est celui d'une crise sanitaire, de réunions qui sont ramenées à beaucoup moins de députés qu'à l'habitude, cette question de la crise sociale qui peut suivre donc cette crise sanitaire est une question importante. Vous l'abordez comment, Carole Grandjean ?
Mais écoutez, nous l'abordons déjà avec un travail sous forme de télétravail, vous l'avez dit, puisque la plupart d'entre nous ne pouvons assister au débat du fait d'un aménagement des conditions d'exercice au sein de l'hémicycle, donc maximum 75 parlementaires dans l'hémicycle. Nous travaillons en fait sur l'urgence, c'est-à-dire les mesures d'urgence que souhaite prendre le gouvernement et les ordonnances qu'il a proposées et l'action qui est la nôtre de contrôler, hein, l'action du gouvernement avec le contrôle des ordonnances dans le cadre de l'urgence. Et puis nous préparons, j'ai envie de dire, l'après et la construction finalement de dispositions qui devraient prendre peut-être plus d'ampleur demain et pour ma part plus particulièrement dans la sphère travail puisque je suis effectivement plus spécialisée sur les sujets travail et dialogue social. Donc on a deux temps en fait, hein, de réflexion, celui de l'urgence et celui de l'après.
Est-ce que cela vous inquiète effectivement de voir ce taux de chômage en mars qui a bondi de 7,1%? Et surtout, est-ce qu'on sait, par les statistiques, qui sont ces nouveaux chômeurs et quelle est la particularité du type de travail qu'ils pratiquaient auparavant?
Oui, alors évidemment que nous sommes tous préoccupés pour anticiper les effets de cette crise sur le monde du travail, avec quatre, je dirais, typologies de travailleurs. Les vulnérables, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà vulnérables auparavant, qui étaient déjà sous des statuts précaires, CDD, intérimaires, pour ne citer qu'eux, hein, mais on pourrait même élargir au statut des indépendants, on en parlera peut-être plus tard. Mmh. Et puis des nouveaux vulnérables, c'est-à-dire des personnes qui étaient dans l'emploi, avec des professions dans l'hôtellerie-restaurant, les services aux particuliers, le transport, l'art, la culture, le sport, qui eux aujourd'hui sont en vulnérabilité puisque leur activité est interrompue ou très ralentie. Et puis finalement, d'autres professionnels qui sont eux en première ligne. Il y en a plus de 10 millions de professionnels qui sont en première ligne dans la santé, l'éducation, la propreté, l'alimentaire, la distribution. Donc des professions, les professions régaliennes aussi, des professions qui sont eux très exposées en vulnérabilité peut-être sanitaire parfois, en contact avec le public, sur des conditions de travail, on en reparlera probablement, parfois difficiles. Et puis, il y a les professionnels qui, eux, sont en télétravail. Donc, on a quatre typologies de travailleurs aujourd'hui et avec des attentions qui sont évidemment à personnaliser, si je puis dire. Hein. Mais chacun d'entre eux ont des, voit surgir des préoccupations qui leur sont propres, mais auxquelles il nous faut répondre.
Sophie Bernard, bonsoir. Vous êtes professeure à Paris Dauphine en sociologie. Vous êtes chercheuse à l'IRISSO et vous avez écrit très récemment, puisque c'est cette année, Le nouvel esprit du salariat. Vous y dressez des typologies vous-même, effectivement, sur le type de salarié, associé, méritant, quasi indépendant, dites-vous, dans votre propre travail de recherche. Est-ce que ce que vous disiez avant va être bouleversé par ce que vous pouvez voir depuis chez vous de la crise en cours en matière de travail?
Alors en réalité, je suis pas prévisionniste de fait, mais je peux néanmoins partir des résultats des enquêtes que j'ai pu mener jusqu'à maintenant, cela risque a priori d'être renforcé, au sens en fait où dans mes travaux, ce que je montre, c'est qu'on assiste à une remontée de l'incertitude. Alors de fait, comme ça a été évoqué, avec la croissance du chômage, des emplois précaires, et ce depuis le milieu des années 70, et ce qui risque d'être renforcé de fait à la suite de cette crise sanitaire. Mais ce à quoi on assiste aussi, c'est une remontée de l'incertitude au cœur même du salariat stable. Notamment avec tout ce qui est déploiement des rémunérations variables, sachant donc c'est ces rémunérations qui ont attiré mon attention dans le cadre de mes dernières enquêtes, au sens où il y a cette injonction pour les salariés à faire leur salaire, à être responsable de leur rémunération, et notamment ce qui risque de se produire, c'est à la suite de cette crise, c'est une chute des rémunérations. Notamment du fait de la chute de ces rémunérations variables. Parce que, petite précision tout de même, c'est qu'on associe habituellement les rémunérations variables au cadre. C'est un peu la figure emblématique. Et en réalité, 83% des salariés bénéficient de primes et de compléments de salaire. Et ça peut parfois représenter jusqu'à 30% des rémunérations, ce qui est quand même très important. Et le risque à la suite de cette crise sanitaire, c'est finalement de voir ces primes, si ce n'est diminuer, mais complètement disparaître, et donc se traduire par une chute des rémunérations. Donc, ce qui met en exergue le fait que qu'on constate finalement un report des risques du marché sur les salariés qui se trouvent responsables de leur salaire. Donc, au-delà de l'incertitude des populations précaires au chômage, eh bien finalement même le salariat stable finalement risque d'être lui-même impacté par cette crise de ce point de vue-là.
Antonio Casilli, vous êtes le troisième invité de ce débat. Je rappelle que vous êtes professeur à Télécom Paris, spécialiste des questions de numérique. Vous êtes chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Et l'année dernière, vous avez publié un livre très intéressant, une enquête sur le travail du clic, justement sur un type de travail qui est très particulier, que vous allez nous expliquer à l'instant même et qui a été très mis en avant pendant cette crise du Covid-19. Vous faisiez remarquer, en préparant cette émission, qu'il y avait une vidéo qui tournait, que j'ai vue également, de ces gens qui prennent les trains de banlieue ou les RER en Italie, comme en France d'ailleurs, pour rentrer chez eux, et que la majeure partie, voire la totalité des gens qui sont sur les trains de banlieue en fin de journée, eh bien, ce sont les livreurs Deliveroo ou des autres marques de livraison qui repartent avec leur vélo dans leur banlieue. C'est une figure assez, disons, impressionnante, effectivement, du type de travail qui a été développé et mis en avant pendant le temps du confinement.
Oui, c'est surtout le signal du fait que, par-delà nos propres classifications, il y a des lignes de fracture dans la force de travail qui désormais fait surface de la crise sanitaire. D'abord que le télétravail, comme on le rappelait, ne représente pas le cas de figure pour tout le monde, même pour les quelques données qu'on a à notre disposition, pour la France ou les États-Unis ou d'autres pays d'Amérique du Sud, cela ne dépasse pas le 25 ou 30% de la force de travail. Et pour ceux qui, par contre, n'ont pas ne font pas face au chômage ou ne continuent pas de travailler, voilà, il y a effectivement, ou alors plutôt parmi ceux qui continuent de travailler, il y a aussi des personnes qui sont les travailleurs des plateformes numériques, qui sont évidemment souvent impliqués dans des activités de nature logistique. C'est ce qui assure le dernier kilomètre de la logistique. C'est les travailleurs du dernier kilomètre, last mile workers. C'est les personnes qui finalement livrent chez vous les marchandises ou les repas que vous avez demandé. Ces personnes-là se retrouvent dans une situation assez paradoxale à ce moment, ces travailleuses et ces travailleurs, parce que finalement ils sont face à une visibilité inattendue, une visibilité mm-hmm. qu'ils n'avaient pas auparavant, parce que dans les villes d'avant Covid, ils étaient perdus dans la foule. Ils étaient pas les pensionneurs de Lila, mais enfin quelque chose de la version moderne de cela, parce que on les voyait pas. Mais si vous retirez les foules à cause du confinement, finalement, on ne voit que ces personnes-là. On voit dans les vidéos que plusieurs informateurs de terrain m'envoient des villes entièrement désertes. En Europe et en Amérique du Sud parfois, et on ne voit que des livreurs qui tracent dans la nuit. Ces personnes sont visibles et c'est quelque chose de c'est un effet inattendu de ce confinement, mais en même temps les plateformes s'efforcent de les rendre encore plus invisibles. Par exemple, encore plus invisible, c'est-à-dire que par exemple, si une plateforme comme Deliveroo vous vend aujourd'hui, depuis le mois de mars, en fait, du contactless delivery, de la livraison sans contact, ils oublient de dire que c'est sans contact pour le mangeur, pour le consommateur finalement, parce qu'il ne reçoit pas en main propre le repas, et le repas est laissé en bas de chez lui, enfin, grosso modo, mais c'est pas sans contact pour le livreur. Le livreur doit continuer à s'interfacer avec les restaurateurs, doit continuer à évoluer dans un contexte urbain qui souvent l'expose à des risques et évidemment à toucher des plateformes, des surfaces comme par exemple des poignées de porte et ainsi de suite qui mm-hmm. peuvent l'exposer à la contamination. Donc c'est une manière de faire oublier le risque que ces personnes prennent, et ceci malgré le fait que les plateformes mêmes ont mis en place des politiques qui sont souvent des politiques de façade visant à assurer à ces livreurs, à ces travailleurs du dernier kilomètre, une certaine forme de protection sociale qui relève évidemment presque de quelque chose d'octroyé, presque d'un cadeau qu'ils feraient, mais qui souvent est impossible pour ces livreurs à obtenir. Parce que s'il faut, pour pouvoir par exemple obtenir un certain bonus de Deliveroo parce qu'on est resté en quarantaine à cause du fait qu'on s'est exposé à un certain risque ou qu'on a été déclaré positif, il faut d'abord pouvoir être testé. En l'absence de tests généralisés, c'est impossible de pouvoir accéder à ce type de protection sociale.
Oui, donc on voit bien effectivement tout ce que cette crise met en œuvre dans le domaine du travail, Carole Grandjean, et qui va bouleverser, j'imagine, le travail des parlementaires, de la parlementaire que vous êtes et de tous les parlementaires qui travaillent sur ces questions sociales, parce que effectivement, les pensées d'avant, d'une certaine façon, vont être bousculées par ce qui se passe et par les expérimentations qui ont été mises en œuvre de façon un peu improvisée, aussi bien dans le domaine du télétravail pour des salariés qui n'étaient pas habitués à le faire que pour effectivement ces travailleurs du CLIC dont parle Antonio Casilli.
Oui, effectivement, ça vient mettre en exergue un certain nombre de fractures, hein, les invisibles qui deviennent visibles aujourd'hui, par exemple, viennent révéler au fond des vulnérabilités économiques qui sont déjà existantes, hein, dans la société, ou des vulnérabilités sociales. On va reparler peut-être du télétravail, mais des vulnérabilités qui se cumulent maintenant avec une fragilité statutaire ou de cessation d'activité. Ça vient évidemment nous faire penser aux questions de protection sociale, même si on a un système de protection sociale très avancé par rapport au reste des pays européens ou internationaux, on a quand même de vraies réflexions à avoir sur notre système de protection sociale, notamment vis-à-vis de certaines populations. On a parlé là des professionnels des plateformes, on pourrait parler des indépendants par exemple, mais ça vient aussi révéler des fractures entre ceux qui ont poursuivi le travail et qui ont été exposés à des conditions de travail difficiles, ceux qui ne l'ont pas été parce qu'ils ont pu s'organiser en mode télétravail, ceux qui ont un travail tout simplement, ceux qui n'en ont plus, ceux qui ont des conditions de vie de travail difficiles. Je pense aux risques psychosociaux auxquels s'exposent un certain nombre de télétravailleurs, puisque c'est effectivement une réalité pour 44% des télétravailleurs d'aujourd'hui qui n'ont pas choisi ce mode de travail, puisque c'était une activité imposée en télétravail. Habituellement, on est autour de 17% de télétravailleurs au moins en temps partiel. Et donc là, on est sur un mode de télétravail imposé qui a obligé la conciliation avec des considérations de type scolarité, imposer aussi du télétravail parfois dans la ruralité, dans des modes de travail qui sont dégradés, avec des connexions réseau qui sont difficiles, imposer aussi un travail en continu où la frontière entre la vie personnelle et professionnelle est très floue, et donc des risques psychosociaux et le sentiment de fracture qui s'accroît entre ceux qui télétravaillent, qui ressentent des difficultés à le faire, ceux qui sont en première ligne et qui sont exposés à des risques sanitaires avérés, et puis ceux aussi qui reprochent parfois à leur hiérarchie d'être eux en télétravail, mais enfin d'avoir la hiérarchie en télétravail et eux être toujours en première ligne. Donc on a une vraie réflexion sur notamment ces activités considérées intuitivement comme essentielles. Je pense aux soins, aux médico-sociaux, à l'éducation, à la propreté, les services publics.
Mais qui n'étaient pas considérés comme essentiels auparavant.
Qui étaient invisibles, oui.
Et surtout, et même un peu méprisés tout de même. Beaucoup de gens n'imaginaient pas qu'une société tournée par ce type de travaux, qui, du point de vue de la rémunération en particulier, sont généralement mal payés et qui sont considérés aussi par l'ensemble du corps social moins bien que d'autres types de travail.
C'est tout le paradoxe, c'est vraiment tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils sont considérés intuitivement comme essentiels, mais finalement l'image qu'ils ont n'est pas celle qu'on peut avoir pour d'autres emplois, c'est pas toujours l'orientation qu'on aurait souhaité pour ses enfants, et surtout il y a un manque de corrélation entre la rémunération, la valorisation de ce métier et la contribution réelle de l'activité à la société. Et donc évidemment, ça doit nous emmener à travailler, à réfléchir à comment pouvoir effectivement reconsidérer ces métiers-là qui ont une contribution objective à la société, avec des indicateurs qui sont pas toujours évident à objectiver, mais sur lesquels il nous faudra travailler. Et d'ailleurs, des annonces ont été faites, notamment pour les professionnels hospitaliers, pour vouloir effectivement avancer en termes de rémunération. Mais il n'y a pas que la rémunération, je voudrais vraiment insister là-dessus. Il y a toutes les perspectives que ces gens-là peuvent avoir. On prenait là l'exemple des professionnels de plateforme. La perspective reste extrêmement faible. Les dispositifs d'accès à la formation, les négociations de branches n'existent pas. Pour les travailleurs de plateforme, ils n'ont pas de représentation syndicale. On a très peu de travail sur les conditions de travail, sur la solidarité au sein du secteur d'activité, les passerelles. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il nous faut pouvoir réfléchir, parce que travailler sur l'image, travailler sur la reconnaissance, c'est aussi conférer une plus grande écoute, c'est aussi travailler sur les conditions de travail, c'est aussi accepter de leur faire place dans la société, et on pourrait penser par exemple à la question du logement. Et donc comment est-ce que on reconnaît finalement l'utilité de ces activités dans la société, et comment est-ce qu'on leur fait place, et comment est-ce qu'on les écoute? Et ça, ça me semble absolument essentiel.
Sophie Bernard, vous qui avez travaillé justement sur la reconnaissance au travail par l'intermédiaire d'une manière particulière, c'est-à-dire par la prime et non pas par l'augmentation du salaire. Vous expliquez dans votre travail sur le nouvel esprit du salariat effectivement que les salaires depuis très longtemps n'augmentent plus, mais que néanmoins, eh bien, on distingue les salariés entre eux par un travail sur la prime, sur les rémunérations accessoires, dirons-nous, et que cela effectivement fait partie de la manière dont on envisage collectivement la réflexion sur comment faire promouvoir un certain type de travail, mais individualisé et non plus collectivement, comme c'était le cas auparavant avec les grilles.
Oui, exactement. Ce à quoi on assiste, c'est qu'au travers en fait, d'une valorisation, d'une idéologie méritocratique et individualiste, il s'agirait d'individualiser les rémunérations pour reconnaître le mérite de chacun. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette crise sanitaire, ce qu'elle vient révéler, c'est que le mérite n'est pas forcément en rapport avec les rémunérations, au sens où aujourd'hui, les primes vont certainement être mises en cause, et ça ne sera pas lié au manque d'efforts, d'engagement au travail, mais plutôt à un contexte économique qui qui va remettre en question ces primes. C'est, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que, alors, je suis d'accord sur le propos selon lequel la reconnaissance salariale ne suffit pas. Elle est néanmoins nécessaire, c'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple du personnel hospitalier qui est donc en grève depuis plus d'un an aujourd'hui, on tend à répondre justement à ce personnel hospitalier par l'octroi de primes pour reconnaître leur engagement au travail. Alors, outre le fait que ces personnels n'ont pas attendu des primes pour s'engager au travail, pour faire preuve de conscience professionnelle, d'éthique de la responsabilité, pour reprendre un propos de la formule de Max Weber, par exemple, eh bien, ils attendent une revalorisation des salaires fixes et pas simplement obtenir des primes qui, on le voit, accroissent leur incertitude face à l'avenir. Et par ailleurs, ce qu'ils réclament, et c'est là où je rejoins le propos selon lequel le salaire ne fait pas tout, c'est qu'en plus de la revalorisation des salaires fixes, ils réclament aussi des moyens pour faire correctement leur travail. Parce que justement, on voit bien que l'engagement au travail n'attend pas les primes pour exister. Et que justement, il s'agit aussi d'octroyer des moyens pour faire correctement son travail en fonction de la représentation qu'on en a.
Je donne la parole dans un instant à Antonio Casilli, mais je voulais que vous répondiez à cette question-là, Carole Grandjean, parce que effectivement, en tant que députée, il y a effectivement les lois qui sont votées, il y a le gouvernement, il y a l'encadrement, disons, du travail au point de vue législatif et réglementaire. Mais il y a aussi un autre participant, il n'y a pas simplement les salariés, il y a aussi le patronat, il y a aussi les directions d'entreprise qui vont peut-être trouver l'occasion, en l'occurrence, de dire que ce n'est pas de leur faute, qu'ils n'y peuvent rien, que c'est la crise et qu'ils ne vont peut-être pas aller dans le sens que vous préconisez, et par exemple dans un sens d'augmentation des salaires dans notre pays.
Alors, je partage l'analyse de Sophie Bernard sur le fait que seule la question de la rémunération ne peut pas être traduite par le simple fait de prime, et donc complètement d'accord avec cette idée. Je crois qu'il nous faut effectivement un partenariat fort avec les chefs d'entreprise, une exigence aussi vis-à-vis des chefs d'entreprise, des employeurs, et je dirais qu'ils soient publics ou privés, puisque on a deux typologies de grandes familles d'employeurs, pour travailler sur la rémunération et la progression des salaires. Pourquoi est-ce que je disais que la seule rémunération n'est pas une réponse ? Parce qu'au fond, vous avez déjà aujourd'hui des conventions collectives qui prévoient des rémunérations pour les plus faibles inférieures au SMIC. Donc on a de vrais enjeux autour de la rémunération et de la rémunération fixe, hors prime, pour qu'elle soit évidemment jamais inférieure au SMIC. Qu'elle prévoit aussi des périodicités d'augmentation. Je prends le cas des aides à domicile, où la convention collective prévoit une stagnation du premier niveau de rémunération sur 13 années. Et donc c'est dans ça que je dis que la question du dialogue social doit être absolument réactivée avec les organisations patronales, avec les organisations syndicales, pour qu'il y ait une vraie réflexion globale sur la question de la rémunération hors prime, et j'entends bien cette partie-là. Pourquoi pas avec des primes aussi pour reconnaître certaines périodes d'activité difficiles. On pourrait penser aux primes de chaleur, par exemple, qui n'existent pas. On pourrait penser à certaines reconnaissances de conditions contextuelle difficile, et puis évidemment, et je le crois vraiment profondément, travailler sur les conditions de travail, travailler sur la progression de carrière, sur les passerelles métiers, parce que quand vous êtes finalement cantonné sans perspective d'emploi sur un premier niveau d'emploi, eh bien évidemment que vous manquez de reconnaissance. Et puis je pense vraiment à la question du dialogue social par une représentation plus forte de certains métiers, et je pense là aussi aux aides-soignants, aux aides à domicile, avec une organisation finalement de leur représentation qui devrait être tel que vient de le faire l'ordre des infirmiers. Ils viennent de se structurer en ordre, pourquoi pas un ordre des aides à domicile, pour faire entendre aussi et pouvoir être représentés dans les discussions avec l'employeur et dans les discussions avec l'État, puisque l'État est aussi un employeur, et donc il nous faut évidemment réorganiser les conditions de ce dialogue avec l'ensemble des acteurs. C'est vraiment un ensemble, c'est systémique comme approche. Pour moi, elle est évidemment rémunération, complément de rémunération, négociation de branche, conditions de travail, formation, passerelle, statut. Hein, il y a vraiment un ensemble de réflexions à avoir pour pouvoir revaloriser l'image et les parcours métiers.
Vous écoutez ce soir, en ce 1er mai, le temps du débat, un temps du débat consacré à la bascule possible vers un autre monde du travail.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Antonio Casilli, j'imagine que vous y croyez assez peu à cette bascule, parce que vous qui étudiez les travailleurs du CLIC, qui connaissez si bien le milieu du numérique, vous voyez bien qu'il y a une alternative à ce qui vient d'être présenté par Carole Grandjean, par Sophie Bernard, ce salariat qui sortirait peut-être un peu renforcé par d'autres moyens de cette crise. Il y a aussi une dérégulation possible, il y a aussi moins de protection pour les travailleurs du CLIC, par exemple.
Oui, et de ce point de vue-là, je n'envisage pas ça comme une alternative, certainement pas comme une alternative souhaitable, mais comme une menace qui est là depuis longtemps. D'un certain point de vue, la crise sanitaire est en train de consolider certaines dynamiques sociales, mais aussi politiques, mais aussi technologiques, évidemment, comme par exemple le recours à la plateformisation comme solution miracle pour continuer ou assurer la continuité productive. Et de ce point de vue-là, c'est sous les yeux de tout le monde. Alors après, évidemment, la plateformisation telle qu'elle est envisagée ou encadrée dans le contexte des plateformes numériques capitalistes est quelque chose qui ne favorise certainement pas les travailleurs, ni du point de vue de la rémunération, ni du point de vue de la reconnaissance de tout un ensemble de droits. Et j'aimerais insister, ou même à la limite enfoncer encore le clou sur cette question, sur le rôle, par exemple, des rémunération variable, d'autant plus que pour les travailleurs des plateformes, que ce soit pour les personnes qui assurent des livraisons ou pour les personnes qui assurent un back-office, la continuité, par exemple, d'un certain nombre de services informatiques, même à la limite le fonctionnement même de certaines plateformes, de certains algorithmes, de certaines intelligences artificielles, ces personnes-là sont souvent rémunérées ou à la pièce ou avec des rémunérations variables. Et il y a
des métiers, c'est la tacheronisation des métiers. C'est-à-dire qu'on revient à un système de tacheronisation.
La tacheronisation, autant en termes de type de rémunération, donc payé à la tâche, mais aussi, ça veut dire la fragmentation, donc la réduction à des tâches, voire des micro-tâches. Or, pour ces personnes, pour ces travailleurs, il y a un enjeu qui est, même à la limite, un usage pervers, si l'on veut, des primes. Les primes, on l'a vu récemment, par exemple, avec le cas des modérateurs de plateformes comme Facebook, sont utilisées presque comme une manière, évidemment, non seulement ne pas assurer une juste rémunération, mais aussi pour départager, pour isoler certaines catégories d'utilisateurs. Les modérateurs de Facebook, lesquels, pour des raisons techniques et légales, ne peuvent pas travailler depuis chez eux, ils doivent se rendre dans un espace qui est un espace sécurisé, parce qu'ils, en plus, gèrent souvent traitent souvent des données personnelles ou des données sensibles, ces personnes-là sont encouragées en Espagne ou en Irlande et dans d'autres pays à, encore une fois, se rendre sur leur lieu de travail en bravant le risque sanitaire à l'aide de primes spéciales. Donc non pas, on leur promet pas justement d'améliorer leurs conditions de manière stable, mais tout simplement ces bonus. Ça c'est quelque chose qui a été récemment mise en évidence par un rapport de la Fair Work Foundation, qui est une fondation anglaise spécialisée dans le travail, ce qu'on appellerait la gig economy. Hein. Et effectivement, ils ont remarqué que sur 120 plateformes, sur 23 pays, ces plateformes-là ont une manière absolument aléatoire de assurer, ou alors du moins de promettre aux travailleurs que leurs conditions s'améliorent. Leurs conditions ne s'améliorent pas. Au contraire, face à la montée des incertitudes, la montée du chômage et le fait qu'énormément de personnes s'inscrivent depuis 2 mois sur ces plateformes à la recherche d'occasions de gains, ces plateformes se permettent même de baisser les rémunérations. C'est le cas, par exemple, des plateformes de livraison espagnoles comme Glovo, Glovo est un géant, c'est un peu l'équivalent d'un Deliveroo et Uber Eats pour la France. Glovo a baissé de 50% la base de rémunération pour ses livreurs, ce qui a provoqué une explosion de conflictualité au niveau national d'abord en Espagne et maintenant depuis une semaine au niveau international en plusieurs pays hispanophones comme le Pérou, Guatemala, Argentine et ainsi de suite.
Je donne la parole à Carole Grandjean. Vous êtes membre du conseil d'orientation pour l'emploi qui travaille pour France Stratégie, qui imagine effectivement un avenir pour ces métiers. Eh bien, est-ce que Carole Grandjean, en tant que députée, ces questions de numérisation nous sautent à la figure, pourrait-on dire, pendant cette crise? On a évoqué effectivement toutes ces plateformes avec Antonio Casilli, mais on pourrait évoquer la numérisation pour les cadres ou pour d'autres liés au télétravail. On a dit depuis le début de cette émission que c'était à peu près un quart des salariés ou des gens qui travaillaient qui pouvaient, participer à cette entreprise de télétravail depuis chez eux. Néanmoins, cette question du télétravail, cette généralisation pose problème parce que pendant 2 mois, on a dit que ça pouvait marcher, mais ça a marché dans de très mauvaises conditions la plupart du temps, étant donné que ça n'avait pas été prévu auparavant, Carole Grandjean.
Ah oui, là on est sur des conditions de télétravail subies, hein, vraiment avec une activité imposée en télétravail, une conciliation entre l'activité économique et professionnelle et l'activité personnelle qui était assez complexe, avec une charge non négligeable, celle de la scolarité pour les parents en télétravail.
Et beaucoup, il faut rappeler, pour des femmes, on en discutait avant-hier dans une émission consacrée aux inégalités hommes-femmes, beaucoup de ces questions sont prises en charge souvent, même si c'est peut-être de moins en moins le cas, par des femmes au sein du foyer en même temps qu'elles continuent à travailler.
Alors en tout cas, statistiquement, clairement, le fossé se creuse encore dans ce contexte par rapport au télétravail. En tout cas, pour 22% des sondés, c'est une étude Opinionway, 22% des sondés féminines, le stress est extrêmement élevé, alors que pour 14% des hommes, c'est le cas. On est clairement dans des études qui montrent que cette situation est plus stressante pour les femmes qui ont plus que les hommes la charge de la scolarité des enfants, de la gestion du foyer, et c'est à craindre une forme de régression entre les hommes et les femmes dans ces conditions de travail là. Donc avec un télétravail qui est déjà institutionnalisé, hein, on a déjà des règles, des législatives qui ont été votées, notamment en 2018, qui permettait une simplification dans l'accès au télétravail, avec finalement qui se fait sur simple demande, sans changement du contrat de travail. Donc le télétravail existe déjà dans notre droit du travail. 17% des travailleurs, des actifs, en bénéficient totalement ou partiellement. Mais ça peut répondre à une demande sociale et environnementale, à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, qui n'est pas contestable, hein, avec une réduction du temps de transport. Mais le contexte actuel fait que clairement, beaucoup d'entre nous, hein, nous sommes retrouvés en télétravail avec de réelles difficultés à gérer ça, en enchaînant des réunions en continu, en ayant des difficultés pour certains d'entre nous qui vivons dans la ruralité à se connecter au réseau, à devoir gérer en plus donc la scolarité des enfants. Et donc c'est une nouvelle fracture qui s'est constituée, notamment par rapport à la ruralité et notamment par rapport aux femmes. Et c'est absolument indéniable. Les études le démontrent, et c'est une vigilance qu'il nous faut avoir par rapport à ces formes de travail numérisé. Et je crois vraiment une politique RH demain qui doit prendre en compte ces réalités et ces effets prudentiels là, notamment par rapport à la responsabilité qu'ont les entreprises à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de résultats en termes de rémunération, donc aussi dans les parcours de carrière. Je voudrais juste ajouter une dernière chose, c'est que une étude a montré que au fond ces métiers considérés intuitivement comme essentiels et sous-rémunérés sont souvent des métiers féminisés. Et donc, le fossé entre femmes et hommes existe évidemment sur la relation numérique au travail, mais elle existe aussi dans ces activités première ligne et, j'ai envie de dire, considérées comme essentielles et qui ont continué à fonctionner, qui ont pris des risques sanitaires, mais qui restent moins bien valorisées objectivement dans notre société.
Nous en avons d'ailleurs débattu avant-hier dans l'émission de ce mercredi du Temps du Débat. Sophie Bernard, on vous fait travailler, vous télétravaillez chez vous en participant à cette émission. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que effectivement votre famille avait dû s'organiser pour que vous puissiez être avec nous pendant ce direct. Cette question est extrêmement importante, cette question du télétravail, parce que on voit qu'il y a un risque d'atomisation du travail dans le dossier paru dans Libération hier. Ce jeudi, donc, un grand dossier sur la question du télétravail. On voyait des témoignages de cadres, par exemple, qui disaient « Moi, je suis content parce que je suis salarié à la Défense, où on avait organisé le télétravail avant, et puis au bout du compte, ça m'évite d'être dérangé par les collègues. » Et ça pose aussi la question, effectivement, de l'atomisation du travail, des manières dont on travaille ensemble. Un autre qui expliquait, une autre qui disait « Je suis bien plus efficace quand je suis chez moi que quand je suis au bureau parce qu'il n'y a pas de bavardage. » Donc on se pose aussi des questions sur les évolutions de ce travail en fonction de ce télétravail.
Alors peut-être une première chose à souligner avant, c'est que en effet, les chiffres qu'on a pour l'instant, c'est que 57% des cadres sont en télétravail, tandis que 7% des catégories d'exécution sont en télétravail.
Bien sûr.
Donc on a finalement d'un côté une population qui se trouve surexposée. Alors les femmes, ça a été dit précédemment, mais aussi les catégories populaires racisées qui tendent à être habituellement invisibilisées, comme on le disait auparavant.
Par exemple, les gens qui surveillent les supermarchés, les vigiles, les éboueurs, etc., qui sont plutôt des métiers masculins, là, mais qui eux aussi sont exposés au Covid-19.
Exactement, puisque des collègues, Laure Pitty et Audrey Mariette notamment, ont montré que le département de Seine-Saint-Denis connaît par exemple une surmortalité de 101% sur mars 2020, ce qui est énorme, et ce qui rend compte justement de la structuration aussi sociale de ce département et de cette surexposition donc des catégories populaires racisées. Et de l'autre côté, on a en effet des cadres qui se trouvent en télétravail, avec un télétravail qui a été mal préparé de fait, manque d'équipement, etc. Et puis surtout, avec cette difficulté à prendre en charge des enfants, à leur faire la classe à domicile, et qui viennent, tout cela venant renforcer en effet les inégalités de genre, donc entre hommes et femmes, puisque ce sont majoritairement les femmes qui se trouve en charge de ces tâches.
Et d'une certaine façon, connaissant la menace qui pèse sur les emplois avec la crise qui est en train de se profiler aussi, ce que disaient des gens dans Libération, c'est qu'ils travaillaient plus compulsivement chez eux pendant le confinement pour montrer leur utilité vis-à-vis de leur hiérarchie en disant mon travail est nécessaire. Donc d'une certaine façon, ce télétravail a augmenté la charge sur les salariés qui veulent montrer leur utilité.
Oui, et en même temps, ça révèle aussi le rôle structurant du travail dans la vie et la place centrale qu'il occupe dans notre société. Vous parliez d'atomisation tout à l'heure du travail. C'est vrai que certains, mais dans des situations très spécifiques et finalement qui sont plutôt marginaux, vont en tirer parti, mais vont aussi réaliser que le travail leur manque, et notamment pour ce qu'il représente en matière de lien social en tant que vecteur d'intégration. Et ça permet de revenir un peu sur ce que Dominique Méda et Patricia Vandrama appellent le paradoxe français, c'est-à-dire d'un côté c'est en France, en comparaison des autres pays européens, où on trouve un attachement au travail le plus important, et dans le même temps une plus grande aspiration à voir sa place réduite, notamment du fait de la pression au travail qui est extrêmement forte.
Antonio Casilli, sur ce point, pour conclure, nous arrivons bientôt au terme de cette émission, sur ce point justement de l'atomisation du travail, l'impossibilité ou même la volonté de certains de ne plus croiser de collègues en se disant tout compte fait on est mieux chez soi. Est-ce que c'est une aspiration ou c'est une menace pour l'avenir du travail dans notre pays?
L'aspiration maintenant, au contraire, c'est à la récréation de collectifs. En l'occurrence, si on regarde les personnes qui réalisent des métiers de proximité, proximité physique avec d'autres êtres humains, donc que ce soit dans la grande distribution, que ce soit dans la logistique, par exemple, on voit l'émergence d'un ensemble de revendications qui relèvent évidemment avant tout de la sécurité sur le lieu de travail, mais dans certains cas, on voit effectivement l'organisation de ces travailleurs. Je pense à ce qui est en train de se passer aujourd'hui même, c'est-à-dire 1er mai 2020, c'est aux États-Unis. Les travailleurs de la distribution et de la logistique de Target, de Whole Foods, mais aussi de plateformes de livraison et de courses à domicile qui s'appellent Instacart, c'est des personnes qui sont entrées en grève. Et c'est effectivement un effort d'organisation qui relève d'une envie de faire collectif et de faire collectif en tant que travailleur.
Oui, Carole Grandjean, c'est une des possibilités, c'est que les grands mouvements sociaux qui ont précédé cette crise redémarrent sur d'autres bases peut-être, mais redémarrent immédiatement après la fin du confinement. Très brièvement.
C'est un risque, hein, puisque effectivement certaines fractures ont été révélées, d'où pour moi la nécessité d'un dialogue social renforcé, d'un dialogue social aussi qui soit territorial, puisque nous ne connaissons et nous ne connaîtrons pas les mêmes réalités d'un territoire à l'autre, et je crois vraiment que les réponses doivent être ajustées et les méthodes, notamment de dialogue avec les actifs, doivent être ajustées finalement à la réalité des territoires, aux réalités économiques, notamment connaissant la faible mobilité des Français. Et donc il nous faut pouvoir ajuster les réponses et accompagner la vulnérabilité économique de chacun selon leurs spécificités encore, puisque on n'a pas les mêmes vulnérabilités entre quelqu'un qui est en première ligne, quelqu'un qui est un nouveau vulnérable ou quelqu'un qui était déjà vulnérable, travailleur de plateforme, CDD, intérimaire ou ceux qui étaient dernièrement en télétravail. Donc il nous faut ajuster les réponses par rapport à ces différentes grandes catégories et surtout au niveau territorial par rapport aux impacts économiques que nous allons rencontrer dans les semaines et mois à venir.
Merci beaucoup à vous, Carole Grandjean. Je rappelle que vous êtes députée de Meurthe-et-Moselle, membre de la commission des affaires sociales. Merci à Sophie Bernard qui était donc depuis chez elle. Elle est professeure de sociologie à Paris Dauphine et auteure de l'esprit, nouvel esprit du salariat au PUF. Et à vous, Antonio Casilli, vous aussi depuis chez vous. Vous êtes l'auteur de En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, En attendant les robots, enquête sur le travail du clic. C'est paru l'année dernière au Seuil. C'était le temps du débat. Merci à toute l'équipe. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, Manon Prisset, qui prépare avec moi ces émissions et qui continue de nourrir chaque jour ce qu'on appelle la conversation mondiale, des textes d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes du monde entier sur le site de France Culture à l'occasion de cette crise. Merci également au service web de France Culture qui nous épaule dans cette tâche et également pour cette émission enregistrée chacun chez soi à Jean-Marc Claus, Christian-Denis Lecev et Marie-Christine Vesely qui mettent à disposition les outils pour que nous puissions continuer à faire de la radio depuis chez nous. À la technique aujourd'hui, elle est à la Maison de la Radio et lui est à la Maison de la Radio. Déborah Dagobert et Théo Gomard, et nous les remercions. À la réalisation depuis chez lui à Pédernec en Bretagne, Alexandre Manzanares, lundi, nous nous interrogerons sur les rapports de la science et de la politique à l'occasion de cette crise du coronavirus. Merci à tous et merci à toutes.